Chapitre 5. J'ai la tête qui éclate, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. Le monde est Stone, Starmania. Lola. Il y a quelques années, je suis tombée par hasard sur le film « Pour un garçon », dans lequel le héros découpait ses journées en unités de temps. Si le reste de l'intrigue, ni même l'acteur d'ailleurs, ne m'a laissé de souvenirs impérissables, en revanche, cette histoire d'unité de temps est restée elle. Ce concept avait quelque chose de structurant. Et tout ce qui structure rassure, c'est bien connu. Les unités de temps, c'était pas mal, mais ça ne me permettait pas d'inclure tous les paramètres, et notamment celui de l'anxiété. En y réfléchissant, je me suis dit qu'il était peut-être possible de transposer l'idée et de transformer les unités de temps en unités d'anxiété. Au final, c'est sans doute l'outil qui m'aide le plus aujourd'hui à gérer mes angoisses. Et je n'en suis pas peu fière. Le concept est tout simple. Chaque situation quotidienne est associée à un niveau d'angoisse. Répondre au téléphone est quelque chose que je peux assez facilement faire maintenant, grâce à l'affichage du numéro et ou de l'identité de l'appelant. Le niveau d'angoisse est assez faible, je lui ai donc associé le chiffre 1, pour une unité d'angoisse. À l'opposé, me rendre chez le dentiste est une situation nettement moins bien gérée, avec un niveau de stress élevé et une équivalence de 10 unités d'angoisse. Dans un carnet, j'ai listé toutes les choses qui m'angoissent ou me stressent. Il y en a des pages et des pages, et rien que de les écrire m'a valu une belle crise de panique. Et je leur ai attribué une valeur en unités. Choisir ses vêtements face à l'armoire, une unité d'angoisse. Faire du shopping, deux unités d'angoisse. Sortir de la cabine d'essayage pour se regarder dans le miroir et devant tout le monde, quatre unités d'angoisse. Choisir un plat sur la carte d'un restaurant, deux unités d'angoisse. Prendre l'avion, 10 unités d'angoisse, etc. Il a fallu ensuite que je détermine un nombre d'unités acceptables. J'évite de cumuler rendez-vous chez le dentiste, essayage de vêtements en boutique et sortie au restaurant le soir avec Ginger. D'autant plus si j'ai eu à répondre à 4 appels le matin. Comme je ne peux pas tout prévoir, gestion de l'imprévu, 50 unités d'angoisse, il arrive que je dépense plus d'unités que ce que j'ai en stock. C'est alors un peu comme avec la théorie des petites cuillères, ça ne se remplit pas le lendemain comme par magie. L'énergie supplémentaire bouffée sur une journée trop chargée en unités d'angoisse ne revient que progressivement. Je suis donc hyper vigilante. Ce cahier, démarré il y a bien 5 ans maintenant, m'est devenu indispensable. Et je me prends au jeu d'évaluer chaque situation, même la plus innocente et sans intérêt, afin de voir si elle doit se voir attribuer des unités d'angoisse ou non. Ginger dit que je devrais breveter cet outil, que je pourrais appeler l'échelle Lola et le vendre à prix d'or. Je pensais qu'elle se fichait de moi la première fois qu'elle en a parlé, mais en réalité, elle était tout à fait sérieuse. Pour une raison que j'ignore, elle qui pourtant n'a peur de rien, ou presque, ne se moque jamais de mon anxiété permanente. À sa manière, elle essaie même de m'aider, comme lorsqu'elle débarque chez moi sans prévenir. Elle le fait en pensant qu'à force, ça atténuera l'angoisse de l'imprévu. Et quelque part, ça fonctionne un peu. Si la voir débarquer génère un pic d'adrénaline, des picotements et des rougeurs dans le cou, ça ne dure pas plus de quelques minutes désormais. Depuis notre dîner, je ne cesse de penser à cette mauvaise nouvelle que lui a appris l'oncologue. J'ai dû revoir un peu à la baisse mes activités journalières pour intégrer cette donnée. S'inquiéter pour Ginger, 3 unités d'angoisse. Même si elle faisait en sorte de ne rien montrer, je sais que ça a été dur la première fois, que les traitements la mettaient à terre et qu'elle avait des difficultés à supporter cette diminution physique. Ginger n'est pas de celles qui se reposent, ni qui s'écoutent. Ce matin, je lui ai envoyé un petit texto pour lui dire que je pensais à elle. Elle a rendez-vous avec son oncologue pour définir la marche à suivre. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire quelques recherches sur Internet et le programme des réjouissances risque d'être pour le moins éprouvant. J'ai décidé de lui faire une surprise et de débarquer à mon tour à l'improviste chez elle pour l'emmener au bord de la mer. C'est l'un des points que nous avons en commun, le plaisir de marcher pieds nus dans l'eau. Je n'ai eu qu'à annuler tout ce qui était prévu ce jour-là afin de libérer des unités d'angoisse pour le trajet. Si conduire en général ne m'a jamais posé de difficultés, aller sur l'autoroute et traverser des ponts, c'est une autre histoire. J'ai découvert il y a peu que ça portait un nom, l'amaxophobie. On donne des noms à tout maintenant, et côté phobie, c'est même un sport national. C'est ainsi qu'il existe des ouranophobes qui ont peur du ciel, de la terre et du temps qui passe, et même des phobophobes qui ont peur d'avoir peur. Quand une journée est difficile, je me rassure en me disant que ça pourrait donc être pire pour moi. Ginger.
Si l'incrédulité avait un visage, ce serait celui de mon oncologue en cet instant. Je ne suis pas certain de vous avoir compris. Vous savez ce qu'on dit ? Quand une histoire est terminée, il n'est jamais bon de la redémarrer. Un ex doit rester un ex. Je ris. Lui, non. Vous m'avez très bien comprise. Je reprends plus sérieusement. J'ai bien réfléchi et je ne veux pas recommencer tout ce bazar, les chimios, les vomissements, les douleurs. Non, je ne veux pas. Mais si l'on ne vous traite pas, c'est le cancer par récidive qui l'emportera par chaos. Soit. Personne n'est en mesure de me garantir qu'un traitement changera la donne, pas même vous. Je ne suis pas suicidaire, je tiens à la vie, figurez-vous. Mais revivre ce calvaire pour peut-être y rester quand même, non, je refuse. Ne vous inquiétez pas, je vous signerai tous les documents que vous voulez. Vous pourrez dire que vous ne m'avez bien informé et je confirmerai que j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. S'il faut passer, je ne sais pas moi, un test prouvant que je suis saine d'esprit, je le ferai. Il ne s'agit pas d'administratif ni de juridique, il s'agit de votre vie, Madame Ternay. Je crois, je pense que vous faites une erreur. Si c'est le cas, ce sera mon erreur. Et rien que pour ça, il n'y aura rien à regretter. Sans traitement, le cancer va progresser et vite, les métastases vont se diffuser, la douleur. Je ne dis pas que ça va être facile. Je suis même pleinement consciente que ça ne le sera pas. Mais pour l'instant, je suis en vie et je me sens forte. J'ai des choses à accomplir. Et je ne pourrai pas les faire enchaîner à un lit d'hôpital. Je ne vous demande pas de me comprendre, je vous demande de respecter ma décision. Elle est ferme et définitive. Dans son regard, je sens tout le combat entre le professionnel et l'homme, entre l'empathie et la science. Je devine ses doutes aussi et sa peur de ne pas avoir su dire les bons mots. Vous n'y êtes pour rien, il n'y a rien, hormis une certitude de guérison à 100% que vous auriez pu avancer pour me faire changer d'avis. Et cette certitude, vous ne l'avez pas, je me trompe ? Non, mais non, je ne l'ai pas en effet. Il attrape son bloc d'ordonnance devant lui. « Je vais vous prescrire plusieurs antalgiques et d'autres choses que vous pourrez prendre en fonction de l'évolution. Prenez-les, insiste-t-il. Il ne sert à rien d'ajouter de la douleur à... » Il n'achève pas sa phrase, termine d'écrire et arrache la feuille avant de me l'attendre. « Merci. » « Si jamais vous changez d'avis, ça n'arrivera pas. » Je le coupe plus sèchement que je ne l'aurais voulu. « Ça n'arrivera pas. » Mais si jamais, je sais où vous joindre. Je reprends avec un peu plus de diplomatie. Je sors de son bureau libérée d'un poids, ce qui, j'en suis bien consciente, est paradoxal quand on est en train de se faire grignoter par un cancer. Pourtant, c'est comme ça que je me sens. Libérée et pressée. Le temps ne m'attendra pas.
Lola. Et si elle prenait mal ma venue intempestive ? Et si elle avait envie d'être seule ? Maintenant que je suis garée devant chez Ginger, j'ai toutes les peines du monde à sortir de ma voiture pour sonner à sa porte. Je pourrais repartir et lui passer un coup de téléphone, sauf que ce serait vraiment nul d'avoir consommé des unités d'angoisse pour au final ne pas atteindre l'objectif fixé, et ce, à moins de 5 mètres du buffet. En plus, je sais qu'elle est chez elle. Sa mini est garée dans l'allée. Je rassemble donc mon courage et m'extrais de la voiture avant de m'en éloigner rapidement, histoire de diminuer la tentation de faire demi-tour. L'univers choisit parfois de s'aligner, puisque la porte s'ouvre au moment même où je m'apprêtais à sonner. « Lola ?» me demande Ginger comme si elle avait un doute sur mon identité. « C'est bien toi devant ma porte à des dizaines de kilomètres de chez toi ?» Elle n'ajoute rien. Je sais qu'elle sait combien cela m'a coûté de venir jusqu'à chez elle. « Surprise !» lançais-je la voix chevrotante. « Tu m'as dit que ton rendez-vous chez l'oncologue, c'était ce matin. » Alors j'ai pensé que tu aurais besoin de compagnie après la présentation du protocole de récidive qu'il a dû te faire. Donc c'est pour ça que tu as emprunté l'autoroute et traversé deux ponts pour venir me voir et me remonter le moral ? C'est pour ça, et une bonne glace à l'italienne vanille fraise, ajoutai-je. Ça te dit une virée au bord de la mer ? Juste pour marcher un peu dans l'eau et redonner à cette journée un statut de bonne journée. Ginger a cette chance d'habiter à une cinquantaine de minutes d'une magnifique plage de sable fin qui s'étire sur une dizaine de kilomètres. Elle se dépêche de jeter quelques bricoles indispensables dans son sac à main, crème solaire et lunettes de soleil, entre autres, ainsi que ses clés. « Tu ne m'en veux pas de débarquer à l'improviste ?»« Je cherche à me rassurer et j'ai envie de voir d'autres amis. »« Ne dis pas de bêtises. Tu sais très bien que jamais je ne t'en voudrais de passer me voir. Je suis heureuse que tu aies pris cette initiative. Marcher dans l'eau me fera sûrement le plus grand bien. Rassérénée, je démarre et nous filons, dans la limite des vitesses autorisées, bien entendu, vers l'un des lieux préférés de Ginger, où elle m'a embarqué des dizaines de fois. Que t'a dit le médecin, alors ? Tu vas de nouveau avoir besoin de séances de chimiothérapie ? La tête tournée contre la vitre, les yeux rivés sur le paysage qui défile, Ginger ne me répond pas. En tout cas, pas à la question que je viens de lui poser. Tu sais la chanson que j'ai chantée l'autre soir ? Ma mère l'adorait. Elle la chantait tout le temps, notamment pendant qu'elle cuisinait. Jamais je n'aurais cru me souvenir aussi bien des paroles après toutes ces années. Ce n'est pas souvent que tu me parles d'elle. Regarder dans le rétroviseur, ce n'est pas trop mon truc. Mais ce soir-là, après notre dîner, j'ai ressenti comme un besoin. J'ai donc sorti mes cartons de souvenirs, sagement planqués dans le fond de mon armoire. Il y avait des photos, et surtout, tout ce qu'elle avait accumulé avec le temps pour notre fameux voyage aux États-Unis. Il y avait son caméscope, celui que mon père lui avait offert pour son anniversaire, avec plein de petites cassettes. J'en ai visionné une. On m'y voit chanter un extrait de Funny Girl, la comédie musicale avec Barbara Streisand. J'ignorais que tu avais une passion pour le chant. Tu ne m'en avais jamais parlé, il me semble. Non, c'est vrai. C'est parce que sans doute je l'avais moi-même oublié. Parce que c'était trop lié à elle. Tout m'est revenu d'un coup. Elle reste silencieuse pendant de longues minutes. Concentrée sur la route, je n'ose tourner la tête vers elle pour m'assurer que tout va bien. Mon rêve, c'était de monter sur scène à Broadway et de chanter. C'est ce que je raconte sur l'enregistrement. Je m'appelle Ginger, j'ai 17 ans, je suis encore au lycée, mais mon rêve, c'est de chanter à Broadway. À l'époque, je me disais qu'elle m'accompagnerait, que je la verrais au premier rang applaudir à s'en faire des bleus sur les mains. Et puis, elle a décidé de nous laisser. Il n'est peut-être pas trop tard pour que tu le réalises, ce rêve. Quand tu seras guérie et que tu auras repris du poil de la bête, rien ne t'interdit de t'envoler vers New York et de tenter ta chance. Je suis certaine qu'une carrière de chanteuse peut se démarrer après 40 ans. Qu'est-ce qui pourrait bien l'empêcher ? Je sens le regard de Ginger fixé sur moi. Je tourne très rapidement la tête vers elle avant de reposer mes yeux sur la route. « Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit une bêtise ? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça ?»« Tu devrais t'arrêter. Tiens, regarde là, il y a une aire de repos. » Gagnée par l'inquiétude, j'obtempère et me gare sur un emplacement désert. Ce matin, j'ai dit à l'oncologue que je refusais de me faire à nouveau soigner, quitte. M'annonce mon ami à peine le moteur coupé. Après la séance de chimio, celui d'avoir ces fameuses douleurs fantômes que personne ne sait expliquer et donc soulager par la même occasion. Je préfère avoir moins de temps, mais que celui-ci soit de qualité. J'ai bien réfléchi. Pas de traitement. Pas une deuxième fois. Mais Ginger, tu vas mourir ? Oui. Personne ne peut dire dans combien de temps. Oui, sans traitement, de ça au moins, on en est sûr. C'est pour cette raison que j'ai pris une grande décision. Je vais partir pour New York et tenter de réaliser mon rêve d'adolescente. Si j'essaie de combattre une nouvelle fois cette saloperie, je n'en aurai peut-être jamais l'opportunité alors. Elle ne l'a pas eu cette opportunité. Si tu voyais tous ces carnets, toutes ces notes, pour quel résultat ? Elle s'est suicidée. Je refuse de courir le risque de passer à côté de la fin de ma vie. Tu vas donc renoncer à te faire soigner pour réaliser un rêve dont tu avais oublié l'existence jusqu'à avant-hier soir ? Dis-moi que t'es pas sérieuse, Ginger. Mon ton est cassant, je sens la colère monter en moi. Je me doutais que tu réagirais comme ça. Pardon, mais tout le monde réagirait comme moi, parce que c'est une réaction normale. Je suis désolée de te dire que pour une fois, c'est toi qui es à côté de la plaque, pas moi. Tu as peur, c'est tout, et ça je le comprends, la peur je bouffe avec elle matin, midi et soir. Tu penses si je la connais bien. C'est terrifiant ce qui t'arrive, mais tu vas te battre et tu vas gagner. Broadway, les chansons, tout ça c'est du n'importe quoi. Ce qui compte là, c'est de ne pas perdre de temps et de commencer les traitements. Tu es voyante ? Tu lis dans le marc de café, les entrailles de grenouille ou que sais-je encore ? Non. Alors tu ne peux pas dire que je vais gagner. Si l'oncologue ne le peut pas, pardon, mais tu ne le peux pas non plus, et encore moins que lui. Et sans certitude, je refuse d'hypothéquer du temps. La première fois, j'y ai laissé mon restaurant. Alors cette fois-ci, tu peux penser que c'est n'importe quoi, et peut-être que ça l'est. Or, je n'ai rien d'autre en stock pour tenir debout que de m'accrocher à un rêve d'enfant, même s'il était enfoui, et de me mettre en action pour le réaliser. Si tu dois passer les heures qui viennent à me dire que j'ai perdu la tête, tu peux faire demi-tour et me ramener chez moi. Déterminée, elle me défie du regard. Je... Non, sur ce coup-là, je ne la comprends pas. Je redémarre, quitte l'aire de repos. J'actionne mon clignotant pour indiquer aux automobilistes que je vais traverser la chaussée pour reprendre la route en sens inverse. Ginger, les traits crispés, les yeux embués, ne dit pas un mot. Elle est en colère contre moi comme je le suis contre elle. Ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est que je m'étais imaginé que tu pourrais venir avec moi. Pardon, venir avec toi où ça? À New York? Oui, à New York. Après tout, tu peux travailler de n'importe quel endroit du globe tant que tu as un ordinateur et une connexion Internet. Alors je m'étais imaginé... Elle essuie une larme du revers de la main. Je me concentre sur ma conduite. New York? C'est comme si elle ne me connaissait pas. Même si j'étais d'accord avec sa décision, New York? Comment peut-elle? Jamais je ne pourrais, jamais. C'est... Enfin, c'est New York! Si elle était vraiment mon amie, elle ne me demanderait pas ça. Non, 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 elle ne me demanderait pas ça. Mes mains sont moites, j'ai envie de vomir. J'ai besoin d'air. Il faudrait que j'ouvre la fenêtre, mais si je lâche le volant ne serait-ce que d'une main, tout va se mettre à tourner et je vais m'évanouir. New York! Jamais, jamais, impossible! Ginger, elle, a fermé les yeux et s'est assoupie. De retour après l'avoir déposée chez elle, sans un mot, je fais les 100 pas dans mon salon. Ginger, le cancer. Pas de traitement. Elle va mourir, je vais la perdre. Pourquoi faut-il que ça lui arrive à elle? Elle ne peut pas me faire ça, elle ne peut pas. Elle va mourir si elle ne se traite pas, elle va mourir. Je dois faire quelque chose. Je dois la convaincre. Elle ne peut pas prendre cette décision. Non, elle ne peut pas. J'ai mal partout, comme si je venais d'être passée à tabac. Et j'ai des difficultés à respirer. Beaucoup de difficultés à respirer. La panique monte. J'essaie de me calmer, mais rien n'y fait. J'ai si mal. De l'air, il me faut de l'air. Je suis en train de faire une crise cardiaque, c'est sûr. La fenêtre, il faut que j'ouvre la fenêtre. Je n'y arrive pas, elle est trop loin, et j'ai trop mal. Mes jambes se dérobent, je m'écroule sur le sol. J'ai la tête qui tourne, je vais vomir. Au secours, il faut que quelqu'un m'aide. Je ferme les yeux. Inspirez, expirez. Pensez à un endroit agréable, un endroit dans lequel on se sent bien, en sécurité. Inspirez lentement, expirez lentement. Mon lit. C'est l'endroit dans lequel je me sens le plus en sécurité au monde. Il ne peut rien m'arriver de mal lorsque je suis dans mon lit. Inspirez, expirez. Je me glisse sous les draps propres, pose ma tête sur l'oreiller. Inspirez, expirez. L'étau sur ma poitrine relâche petit à petit son emprise. Je n'ouvre pas les yeux, j'essaie de faire le vide, de me concentrer sur l'odeur de frais des draps, sur la douceur de l'oreiller, la chaleur de la couette. Je remplis mes poumons, je compte 5, 4, 3, 2, 1, puis j'expulse l'air emmagasiné. La panique s'éloigne. Peu à peu, je reprends possession de mon corps. Mes jambes, mon bassin, mon buste, mes épaules, la douleur s'amenuise. Mes muscles se décontractent, je respire mieux. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu à gérer une crise d'angoisse de cette intensité. Comme je connais ça par cœur, d'habitude, je repère les signes et mets en place tout un rituel d'évitement. Là, je me suis laissé cueillir par surprise. Vidée, je me résigne à endurer la phase qui va suivre et qui s'annonce déjà au bord de mes paupières. J'ai nommé la crise de larmes. Les joues barbouillées, le nez qui coule, toujours effondré sur le sol de mon salon, je sanglote. Je sais qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut juste que ça sorte. D'ici 10 minutes, les larmes se seront taries et je pourrai envisager de penser à tout ça plus sereinement. Mais en attendant... Un bip m'annonce l'arrivée d'un message sur mon téléphone. C'est Ginger. Je suis vraiment désolée de t'avoir annoncé les choses comme je l'ai fait. Tu es ma meilleure amie et je ne voulais pas te mentir. Je sais que tu ne comprends pas ma décision. Je voudrais juste que tu puisses l'accepter. Je veux choisir comment vivre les peut-être dernières semaines qu'il me reste. Et j'étais sérieuse quand je t'ai dit que j'avais espéré que tu pourrais venir à New York avec moi. Je peux et je vais le faire sans toi. Mais ce serait bien plus facile avec toi. S'il te plaît, Kit. Dis-moi que tu vas y réfléchir. New York? Comment? Jamais je ne pourrai. Jamais.